L'émission est consacrée à Mouloud Feraoun. Mouloud Feraoun, père de la célèbre trilogie « Le fils du pauvre »,« La terre et le sang »,« Les chemins qui montent ». Sa production littéraire peut s'intituler « Introduction à l'homme kabyle ». Les éléments autobiographiques côtoient l'analyse ethnographique et la dimension romanesque. L'œuvre précise la personnalité de l'écrivain, déchirée par la violence de la lutte de libération nationale. Dans son journal, il écrit sa révolte et il dit « Tous ceux que j'ai rencontrés savaient que je n'étais ni français ni intégrable. Il vit le drame algérien comme une tragédie personnelle. L'œuvre a connu une résonance internationale. Elle a été traduite en polonais, en russe, en arabe, en allemand et en roumain. Il s'intéresse à la littérature orale en prose et publie des contes et il consigne la littérature de colportage de Si Mohand Oumhand. Né à Tizi Hibel, le 4 mars 1913, un des villages des Beni Douala.
Écho d'Alger. Le train 102 a été assailli au kilomètre 24 par trois indigènes qui montèrent en marche dans le fourgon du chef de train et menacèrent ce dernier de leurs fusils et de leurs couteaux. Le chef de train essaya vainement de les faire descendre, mais ce n'est qu'à l'arrivée à l'ouest de Juifs que les trois bandits, voyant l'équipe d'ouvriers qui travaillait à ce point, abandonnèrent le fourgon et s'enfuirent à travers champs. On donne actuellement une forme sphérique aux tiges des arbres de la rue d'Isly. Si ceux du boulevard Laferrière et de la rue Michelet subissent le même sort, c'en est fait de l'ombre qu'ils recommencent à nous procurer après avoir été mutilés, comme on sait, par les chasseurs de poux rouges, qu'on les laisse se reconstituer cette magnifique voûte de verdure sous laquelle les passants pouvaient circuler autrefois à l'abri des rayons du soleil. Monsieur Bellitran présente un projet de résolution invitant le gouvernement à accorder aux instituteurs et aux institutrices en congé de maladie leur traitement entier pendant 3 mois et le demi-traitement pendant les 3 mois suivants. À la coopérative des artistes, 3 rue Michelet, l'admirable collection de toiles de grands maîtres qui y sont exposées et qui font l'admiration des visiteurs sont toutes signées d'artistes éminents hors concours au Salon de Paris. Il y a là de quoi faire en partie son éducation picturale dans les écoles différentes qui se sont succédées depuis plus d'un siècle.
Mouloud Feraoun voit le jour dans la pièce unique de la maison d'un pauvre paysan. Ses parents mirent au monde 3 filles et 2 garçons. Son père a travaillé dans les phosphates à Gafsa, Bonn, Constantine, dans la Mitidia, puis en France à partir de 1910. Nous avons rencontré les membres de sa famille. Ali, est-ce que le fils du pauvre, c'est un peu lui?
Je crois que c'est plus ou moins la vie de mon père, parce que j'ai lu quelques... On lui a posé la question, hein, j'ai lu quelques réponses à des interviews. Il dit que ce n'est pas tout à fait une œuvre autobiographique. Donc, mais il y a certains faits qui sont évidemment tout à fait vécus. Et c'est ce qu'il a raconté. Donc, par exemple, bon, le jour où il est rentré à l'école, qui a fait l'objet d'un texte qui sont très connus, puis ça a été repris dans les ouvrages scolaires. Bon. Donc le premier jour où il est rentré à l'école, par exemple, là où il raconte comment son père, je crois, son oncle l'a emmené à l'école, comment il a été accueilli en classe et tout. Bon, là où il a entendu son nom pour la première fois et tout. Bon, tout ça, c'est quelque chose de vécu. Bon, il y a d'autres scènes, la scène où il discutait avec son père quand il devait partir. À l'examen, je crois, où il devait aller se présenter, à l'école, pour rentrer à l'école normale, par exemple. Bon, là où son père lui a dit, écoute, nous, on est pauvres, bon, si tu... Son père l'a encouragé, il lui a dit, de toute façon, tout ce que tu as appris, même si tu échoues, tout ce que tu as appris, personne ne te l'enlèvera. Bon, c'est un petit peu ce qu'il dit dans le fils du pauvre, quoi.
Mon père, un rude fellah débroussaillé, défriché sans cesse et planté. Au bout de quelques années, nos parcelles changèrent d'aspect. En plus de cela, il entretenait une paire de bœufs, un âne, une chèvre, deux moutons. Les bœufs ne nous appartenaient pas. Un riche quelconque nous les confiait au printemps, nous les engraissions et nous pouvions mettre en valeur nos propriétés. Vers le mois d'octobre, nous les vendions et nous revenait le tiers du bénéfice. L'âne nous appartenait ainsi que les moutons et la chèvre. Le premier nous rendait beaucoup de services. Il portait sur son dos le bois et le sac d'herbe du champ. Il y transportait le fumier. Il portait à la ville les charges de raisins ou de figues et rapportait de l'orge pour la famille ou, pendant la saison des légumes, des piments, des courgettes, des pommes de terre que ma mère échangeait par platé avec les voisines contre des céréales. Les moutons étaient achetés tout petits. Ils grandissaient, devenaient gras et à l'approche de l'Aït, nous en vendions un qui rapportait généralement le capital engagé pour les deux. Et chaque année, mon père était fier d'égorger, sans avoir rien dépensé, un mouton en l'honneur du prophète. En plus de son lait, la chèvre donnait assez régulièrement un ou deux chevreaux que mon père vendait avec beaucoup de plaisir. Il nous arrivait aussi d'en manger un. Un prétexte pour le sacrifier venait très facilement. Ma mère avait deux ou trois maladies dont elle parlait souvent et qu'on ne voyait jamais. Et tout à fait par hasard, un derviche lui conseillait de tuer un chevreau qui avait précisément la couleur du nôtre. Si ce n'était ma mère, c'était alors mon père qui venait d'attraper une insolation. Or, tout le monde sait que cette maladie provient des djnouns, qui ne quittent le malade qu'après avoir vu couler le sang d'un chevreau de la couleur du nôtre. Le troisième gros personnage qui pouvait provoquer la mort du malheureux cabri était le fils unique. Quant aux sœurs, leurs djnouns avaient tout au plus la hardiesse de demander des œufs. Mon père se faisait prier toute une semaine pour consentir à nous acheter, tous les deux ou trois mois, de la viande au marché. Mais il était toujours prêt à égorger le chevreau. Il ressemblait d'ailleurs en cela à la plupart des fellahs. La viande est une denrée très rare dans nos foyers. Ou plutôt non, le couscous est la seule nourriture des gens de chez nous. On ne peut en effet compter ni la louche de pois chiche ou de fèves qu'on met dans la marmite avec un rien de graisse et 3 litres d'eau pour faire le bouillon, ni la cuillerée d'huile qu'on ajoute à chaque repas, ni la poignée de figues qu'on grignote de temps en temps dans les intervalles. À part cela, on a la faculté de se verdir les gencives avec toutes les herbes mangeables que l'on rencontre au champ. On est libre aussi de se remplir le ventre à tous les ruisseaux limpides qui dégringolent des coteaux, et l'on peut, en guise de primeur, manger toutes les prunes, les pommes ou les poires encore vertes que les dents peuvent supporter. Nous sommes des montagnards, de rudes montagnards, on nous le dit souvent. C'est peut-être une question d'hérédité. C'est sûrement une question de sélection naturelle. S'il naît un individu chétif, il ne peut pas supporter le régime. Il est vite éliminé. S'il naît un individu robuste, il vit, il résiste. Il sera peut-être chétif par la suite. Il s'adapte, c'est l'essentiel.
C'était un extrait du livre « Le fils du pauvre ». En 1920, il est inscrit à l'âge de 7 ans en classe d'initiation à Tawlith Moussa, village du même Douar. Il obtient son certificat d'études primaires, il décroche une bourse et entre au collège de Tizi Ouzou. Il loge à la mission Roland.
Lettre du pasteur Alfred Roland. Mouloud Feraoun n'avait pas beaucoup de penchant pour la vie au grand air, les exercices physiques. C'était alors un garçon studieux, gros travailleur, discret, concentré avant tout sur la réussite aux examens, qui déterminerait sa vie d'enfant pauvre, bon camarade, cordial et sympathique.
Feraoun raconte ses soirées avec sa tante.
Pendant ces récits, nous étions, elle et moi, des êtres à part. Elle savait créer un domaine imaginaire sur lequel nous vivions. Je devenais arbitre et souverain du pauvre orphelin qui veut épouser une princesse. J'assistais, tout puissant, au triomphe du petit Mkredesh qui a vaincu l'ogresse. Je soufflais de sages répliques aux Hcheichi qui tentent d'éviter les pièges du sultan sanguinaire. L'histoire coule de la bouche de Khalté et je la bois avidement. C'est ainsi que j'ai fait connaissance avec la morale et le rêve. J'ai vu le juste et les méchants, le puissant et le faible, le rusé et le simple. Ma tante pouvait me faire rire ou pleurer, tout cela parce que ma tante s'y laissait prendre elle-même. À l'entendre raconter, on sentait qu'elle croyait à ce qu'elle disait, et elle pleurait ou riait tout comme son neveu. Bientôt je fus aussi bien renseigné qu'elle sur les revenants, la mule ou l'outre des morts, le cri anniversaire des assassinés, les processions de fantômes qui annoncent les épidémies. Je connus les métamorphoses de la perdrix, du chardonneret ou du hibou. Mon imagination acceptait tout. Je suis reconnaissant à Khalti de m'avoir appris de bonheur à rêver, à créer pour moi-même un monde à ma convenance, un pays de chimères où je suis seul à pouvoir pénétrer.
Juillet 1932, il passe avec succès à l'âge de 19 ans le concours d'entrée à l'école normale d'Alger Bouzaria. Il devient normalien et élève maître. Il séjourne de 1932 à 1935 à Bouzaria.
Emmanuel Robles, grand disciple de Mouloud Feraoun de 32 à 34, nous dit « Il acquiert à l'école normale un pacifisme sincère, nourri par ses maîtres, mais aussi par ses lectures, celles de Barbus, de Duhamel, d'Éric Maria Remarque, de Dorgelès et de Ludwig Rehn. » D'autres livres l'impressionnent, et ce sont les œuvres de grands romanciers russes du XIXe siècle, Gorki, Tchekhov, Gogol, Dostoïevski. C'était un grand dévoreur de livres, et le temps ne lui manquait pas, puisque faute d'argent, il quittait très rarement l'école le dimanche pour descendre à Alger. Parmi ses lectures, je me souviens que deux œuvres l'avaient plus spécialement impressionné, Les Amortes de Gogol et En gagnant mon pain de Maxime Gorki. De Tchekhov, il appréciait surtout les nouvelles. Il y trouvait une compassion suggérée pour les vaincus de la vie et qui inclinait à souhaiter une existence meilleure, plus juste et plus digne.
Sidi Alina.
La grand-mère de Mouloud Feraoun lui assurait qu'il était né en février 1913. Ce jour-là, elle reçut une mémorable averse. Son père est un fleur que le dénuement fait émigrer en France pour assurer la subsistance des siens. Il est manœuvre dans une usine à Paris. Scolarité studieuse dans un village de Grande Kabylie, puis au collège à Tizi Ouzou, où il découvre les mérites de l'école laïque. Il fait l'école normale à Bouzaréa de 1932 à 1935. Youssef Nassib.
L'enseignement de Bouzaréa, c'était quoi? Bien, c'était le fruit du travail de toute cette équipe en France qui a donné son visage à la Troisième République. C'est-à-dire, à partir de l'équipe de Jules Ferry, Gambetta, etc., on a façonné l'école publique, laïque et obligatoire, en lui donnant certains traits. Bien, l'un des traits de cette école, c'était la mise sur un piédestal de l'homme au détriment de Dieu. Bon, ça chacun le sait, la laïcité dans l'esprit de la Troisième République, c'était non seulement permettre à chacun d'être libre, d'avoir son propre libre arbitre, mais c'était aussi d'une façon, une façon de régler un contentieux avec l'Église. Et chacun connaît le caractère anticlérical, antireligieux de cette Troisième République qui, au demeurant d'ailleurs, était en majorité franc-maçonne. Ceci étant dit, l'enseignement de Bouzaréa a eu tendance à donc valoriser l'homme au détriment, en tout cas dans l'indifférence, de la religion. Tous les élèves passés à Bouzaréa ont reçu cet enseignement et ont reçu comme message d'aider l'homme, de former l'homme, de travailler pour l'homme. Alors, que les élèves sortis de cette école aient reçu cette leçon et essayé de l'appliquer, ça n'a rien de surprenant. Mouloud Feraoun a été normalien. C'était un élève très consciencieux, très sérieux. Tous les témoignages sont concordants à cet égard. Et c'est quelqu'un qui a au moins retenu une chose de l'école normale, c'est qu'il fallait travailler pour les hommes.
En 1935, il occupe son premier poste d'instituteur à Tawrit Adnan. Monsieur Akhchich.
J'ai rencontré Mouloud quand j'étais déjà étudiant à l'école primaire supérieure. J'étais l'ami, un ami intime de son frère, Idir, il était avec moi en quatrième année d'école de DPS à l'époque. Et une fois...
C'était en quelle année ça?
En 1936. Mm-hmm. Et une fois, le jour du certificat d'études, Mouloud, qui était enseignant, je crois, taboudriste à l'époque, était venu comme examinateur à Tizi Ouzou pour faire partie de la commission d'examen du certificat d'études. Et comme j'étais avec son frère, il me l'a présenté. C'est comme ça que je l'ai connu.
À l'époque, il n'était pas connu, Mouloud Feraoun.
À l'époque, c'était il venait d'avoir sa première nomination, plutôt sa deuxième nomination, parce que la première fois, Et ça nommé, il était nommé à Taourir Ta'adel, du côté de Mekla. Il avait été un an là-bas, et puis il a été muté à Taboudrist, c'est-à-dire qu'il s'est rapproché du terroir, il s'est rapproché de Taboudrist, qui se trouve dans le douar de Benidouala, à 6-7 kilomètres de Tizi Ibel, village de Mouloud. J'ai revu par la suite Mouloud en 1945. Je l'ai remplacé à Taboudrist. Lui, il a été nommé avec son frère Bekidir du côté des Ouadia, à Ait Abdelmoumen. Il a été nommé à Ait Abdelmoumen à Bekidir. Ils ont fait là-bas un an. Ils ont fait les 46 et 47. Et en 1948, Mouloud obtenait la direction de Taourit Moussa Omar, Taourit Moussa, et j'ai été envoyé également là-bas comme adjoint. Alors j'ai exercé avec lui pendant 2 ans, les années 1947 et 1948. Nous les avions passés là-bas. Puis lui, par la suite, moi, j'ai été nommé à Adni. Lui, il est resté à Taourit pendant encore 4 ans. Puis, il a été nommé à Fort National comme directeur d'école.
Lettre à Emmanuel Robles datée du 5 janvier 1953, Mouloud Feraoun précise comment est perçu un instituteur dans un village kabyle. Il faut dire que la carrière d'instituteur est considérée dans nos villages comme source de bonheur et qu'il ne faut pas chercher autre chose. Je suis de ceux qui ont atteint leur idéal.
1938, il épouse sa cousine Derbia, de 10 ans sa cadette. Ils auront 7 enfants, 4 filles et 3 garçons. On écoute Zdiga Abtroun, sa fille.
Il était directeur à Taourir, c'est une école de garçons, il n'y avait pas à l'époque d'école de filles, et j'étais dans sa classe. Il avait la classe des grands, j'étais petite, mais quand même je suivais. Il me complétait les cours à la maison, bien sûr. En classe, j'étais une élève comme les autres. Et à la maison,
pas de favoritisme.
Pas de favoritisme, quand je méritais une mauvaise note, je l'avais. Et à la maison, c'était un père merveilleux. Il était très affectueux. Je pense on se comprenait très bien. Quand, par exemple, les dimanches, nous partions de Taourirt à Tizi Ibel voir les grands-parents. Bon, on partait mes frères, moi-même et notre père. En route, on faisait les 2 kilomètres qui séparaient les deux villages. Et en route, moi, j'étais devant avec le père, les deux frères étaient derrière. Et nous, on discutait. Ils me faisaient des cours de sciences nat. Ils me parlaient de la nature, ils me racontaient des histoires. Tout au long de notre randonnée.
Est-ce que le fait qu'il y ait cette relation donc de complicité entre vous et votre père, ça ne dérangeait pas un peu vos frères?
Non, du moment que j'étais l'aînée, j'avais le droit d'aînesse, voilà.
Max.
C'était un voisin, lui, Taourir Moussa, directeur de l'école Taourir Moussa.
Alors quand je descendais, je passais au village, je passais le voir. Il était toujours content d'accueillir, il accueillait avec son sourire, son franc-parler. Il aimait bien peu discuter des conditions qui étaient offertes là aux gens, les conditions dans lesquelles ils vivaient, pour essayer de les améliorer. Je sais qu'il aurait voulu, justement, il avait cette idée-là, que non seulement il fallait de l'instruction, mais aussi qu'il fallait aider le milieu de la vie à s'améliorer. Alors, il y a un peu tous les moyens. Je sais qu'il avait l'air de dire, dites-vous les pères, vous avez beaucoup de succès, mais vous allez voir d'où aussi nous allons avoir. Alors, enfin, alors justement, je dis, c'était ça, cette prise en charge, si vous voulez, de toutes les écoliers et des familles.
L'écrivain Malakouari, dans un hommage à Mouloud Feraoun publié dans le magazine des Arts et des Lettres en 1962, nous raconte sa rencontre avec Mouloud Feraoun à Taourir Moussa. Il ne m'attendait pas, et avant même de m'avoir reconnu, il est venu à moi. Son visage brun me souriait, et son regard, derrière ses lunettes, me souriait aussi. Une chose m'a frappé dans sa tenue. Par-dessus son vêtement à l'européenne, il avait jeté sur les épaules le traditionnel burnous de laine blanche. J'y ai vu un symbole, l'harmonieuse synthèse du souci d'adaptation et de l'attachement au pays.
Monsieur Akchich.
Le soir, après avoir corrigé les cahiers, préparé notre travail du lendemain, nous parlions, on restait dans la classe, on se faisait apporter du café et on discutait. On discutait de tout, on parlait, et c'est comme ça qu'il avait tiré de son carton, si j'ose dire, le fils du pauvre. Fils du pauvre, c'était, il avait commencé à l'écrire quand il était à Taboudriste. Et là, c'était dans des cahiers d'écoliers. Alors, il nous apportait les cahiers, on les lisait, on les relisait, puis...
Il vous demandait votre avis ?
C'est-à-dire, nous discutions des fois, il nous arrivait de discuter un paragraphe, ou même des fois des phrases. Mais... ce qu'il y avait de bien, c'est que dans notre discussion, moi je lui disais, il faut écrire avec sincérité, dire tout ce qu'on a à dire, quitte même à ce que ce ne soit pas plus publié. Je lui ai dit, bon, tu as une bonne plume, tu as un style remarquable. Eh bien, il faut en profiter, écrire, même si ce n'est pas publié, ça restera. Et un jour, il m'a dit, je vais envoyer ça pour... Il y a eu sur un avis de presse, je crois, où il était question d'un prix littéraire de la ville d'Alger. Alors, il m'a dit, eh bien, que penses-tu si j'envoyais ça? J'ai dit, il faudra l'envoyer, pourquoi pas. Alors nous avions passé, je ne sais pas, près d'un mois à copier le manuscrit en 5 exemplaires. Parce qu'il fallait, le présenter en cinq exemplaires. Et nous passions nos nuits, si j'ose dire, à copier des cahiers. Ça faisait combien? 8 cahiers à multiplier par 5, ça faisait 96 pages. Alors, il envoyait ça à Alger. Je ne sais pas s'il a expédié ça ou bien s'il les a apportés lui-même. Et après un certain temps, il recevait une lettre du docteur, je crois, docteur Sergent. Docteur Sergent, qui avait fait partie du comité de lecture de son livre. Alors, Et il a fait son éloge et il lui a dit que le livre était bon et qu'ils allaient le proposer pour le prix de la ville d'Alger. C'est comme ça que le fils du pauvre a été édité, si j'ose dire.
En 1950, Mouloud Feraoun publie un roman « Le fils du pauvre ». Il est édité au puits dans les cahiers du Nouvel Humanisme. La première version est tirée à 1000 exemplaires. C'est un récit à peine romancé de son enfance. Le roman a été traduit en allemand, en russe, en polonais et en arabe. Décembre 1950, « Le fils du pauvre » obtient le grand prix littéraire de la ville d'Alger, décerné pour la première fois à un Algérien. La femme de Mouloud Feraoun fut sa première lectrice et sa fiche d'Iga nous raconte.
C'était sa première élève aussi, au début de leur mariage, c'était sa première élève. Ensuite, elle a continué avec nous, c'est elle qui nous faisait réciter nos leçons, nos tables de matière, de multiplication. Puisque notre père était toujours très occupé et elle était chargée de notre éducation jusqu'à l'âge de 15 ans. Ils avaient fait un contrat, un pacte, voilà. Elle se chargeait des enfants jusqu'à 14-15 ans et lui prenait le relais. Et chaque soir, donc, elle faisait le point de la journée, elle parlait des enfants, des bêtises que les enfants avaient faites et lui corrigeait ou bien lui disait « là, tu as eu tort, là, tu as eu raison, là, tu as assez vite, trop durement ». Ce qui fait que lui faisait quand même notre éducation à travers elle, mais quand il avait le temps, le soir. Ensuite, la soirée se terminait par la lecture de ses œuvres. Il lui lisait le chapitre qu'il venait d'écrire. Elle demandait des explications, comment tel personnage terminera cette partie, quelle était la fin du livre, quelle était la suite. Et ils ont discuté jusque tard dans la nuit et tenaient compte de son avis, vu que c'était sa première lectrice, oui.
Nous allons savoir ce que le fils du pauvre a pu représenter pour les lecteurs et plus particulièrement pour M. Arkchich.
La chose extraordinaire, c'est qu'en lisant dans le fils du pauvre, nous avons l'impression de l'entendre réciter en kabyle. Vous voyez ?
Ah oui, donc il y avait la musicalité kabyle.
La musicalité kabyle et même on dirait qu'il parlait qu'à kabyle. Vous voyez, les termes sont abordables. C'est comme si quelqu'un racontait ça en kabyle. Et chacun de nous s'y retrouvait. C'était notre vie à tous, toute la génération. Nous avions vécu ensemble les jours sombres de l'avant-indépendance. Je jure, d'ailleurs, le fils du pauvre, il le disait très, très bien. Il le disait très bien. Et chaque kabyle se retrouvait dans le fils du pauvre. Je dirais, plutôt même chaque Algérien se retrouve dans le fils du pauvre.
La presse de l'époque souligne l'événement de l'apparition du fils du pauvre. Algérie Républicain, dans son édition du 6 décembre 1950, constate une certaine timidité de jugement sur un certain fait, le colonialisme. Gabriel Odizio s'exclame « Nous qui croyons connaître les Kabyles et la Kabylie, soudain nous les découvrions. Pour la première fois, nous voyons un homme de cette nation témoigner dans notre langue par un récit sans artifice sur la condition humaine de ses semblables. » El Boudali Sefir, le célèbre critique littéraire algérien, écrit « Si simple, si vrai, si direct. Vous le rencontrerez tel qu'il est, puisqu'il s'y raconte et s'y peint avec une simplicité si fraîche et si émouvante. Et votre sympathie ira s'accroissant jusqu'à l'amitié pour cet humain qui se sait dépouiller et se découvrir gentiment votre frère. »
Avril 1951, la remise officielle du prix littéraire de la ville d'Alger se fait à la mairie. Mouloud Feraoun prononce un discours.
Mouloud Feraoun nous livre en avril 51 ses impressions sur la remise solennelle du prix. Il y a eu du bruit, presse, radio, laus du maire et du lauréat, champagne, drapeau, plantes vertes, vous me voyez de là-bas, quand je disais que je deviens une bête curieuse.
Alors comme tous les soirs, nous nous en allons pour mieux vous retrouver. Bonsoir.
غرض روح الروح يا بالي استقري فسان مثال حباب ذي سلمة يا ويكالي ذي حملان ما ذلا تقصي الأعمار ما ذلو غنغر ذا غروان ما إلا من دغت الجور يا اسماعي مرة جاب ذا طغلت ثورتي